arménien. Frédéric Maclaire. Invisible et sans pareil. Il était un roi qui avait 3 fils. À sa mort, il leur laissa à chacun une malle. Dans celle de l'aîné se trouvait une couronne. Dans celle du deuxième, de l'or. Et celle du cadet renfermait de la terre. L'aîné monta sur le trône paternel. Mais un jour, il partit pour la chasse et ne revint pas. Son frère lui succéda et il lui arriva de même. Ce fut le tour du plus jeune de régner. En vain, sa mère, les grands de la ville et ses parents le supplièrent-ils de ne pas aller à la chasse. Il ne voulut point les écouter. Le jour fixé pour le départ, il y avait une foule de mendiants entassés derrière la porte. Il leur fit donner à manger et distribuer des aumônes. Les mendiants le remercièrent en priant Dieu de lui accorder bonne chance pour son voyage. On prend congé, le roi se met en route et puis se sépare de son escorte qui revient sur ses pas. Mais voilà un vieux papa qui arrive. Où est notre voyageur? Qu'il vienne et me donne à moi aussi une aumône. Le roi retourne sur ses pas et lui accorde sa demande. Le vieillard lui donne sa bénédiction en ajoutant ces mots. « Je t'accompagnerai partout où tu iras, et avec l'aide de Dieu, je t'aiderai. »« Très bien, » répond le jeune prince, « achève ton repas et viens avec moi, papa. » Le vieillard achève de manger, puis il va s'asseoir au bord de la route où doit passer le roi. Quand il le voit arriver, il se lève et baise le front du jeune prince et le bénit en lui disant « Va en paix et reviens de même, et moi, sans changer de place, je serai toujours avec toi. Va et ne crains pas. » Le roi embrasse la main du vieux papa qui lui donne un dernier conseil. « Dans quelques jours, lui dit-il, tu te trouveras en présence de 3 chemins. Ne prends ni celui d'en haut, ni celui d'en bas, mais celui du milieu. Tu rencontreras un cavalier sur ton chemin. Tu verras le cheval, mais non celui qui le monte. Ne t'effraie pas. Invoque en ton cœur Soup Sargis et dis au cavalier, si tu es brave, descends de cheval et viens te mesurer avec moi. Note. Ou Soup Sargis, Saint Serge. C'est surtout le patron des jeunes filles arméniennes. Les mariages se célèbrent à la fête de Saint Sargis, ce qui porte bonheur. La veille de la fête, beaucoup de jeunes arméniennes jeûnent. Et au repas du soir, elles mettent en cachette dans leur poche la première bouchée de pain. Mais il faut que personne ne le remarque. La nuit, elles gardent cette bouchée de pain sous leur oreiller. On dit alors qu'elles voient en rêve le fiancé qu'elles épouseront dans l'année. Saint Sargis était très beau. Sur son cheval blanc, il enleva une jeune fille grecque qu'un dragon voulait lui disputer. Il lutta avec sa fourche en or et terrassa le dragon. Le rapprochement avec Saint Georges a déjà été signalé. Il faut mentionner, au point de vue de l'iconographie arménienne, que Saint Sargis a toujours un enfant, la jeune grecque, en croupe sur son cheval, tandis que Saint Georges est seul sur son cheval. Fin de note. Il descendra de cheval, mais tu ne le verras pas. Toi, élance-toi sur son cheval et reste dessus. Alors, son talisman sera rompu et tu verras le cavalier lui-même. Le reste te regarde. Il arriva, comme avait dit le vieux papa, et lorsque le jeune prince fut monté sur le cheval, il vit que le cavalier n'était autre qu'une belle jeune fille. Ce cavalier lui dit « J'avais déjà tué 99 hommes. Si je t'avais encore tué, cela aurait fait la centaine. Mais mon secret t'a été révélé et tu m'as vaincu. Allons dans mon palais. Désormais tu es mon maître. Et c'est toi qui gouverneras, moi et ma maison. » le jeune homme fut ébloui à la vue de ce palais. Tout était si beau, si bien arrangé. Aucune langue humaine ne pourrait l'exprimer. Tout l'argent du monde ne pourrait le procurer. Note, proverbe turc en turc dans le texte arménien. Après quelques jours passés, dans le plus parfait bonheur, le jeune prince commença à aller à la chasse. Le nom de la jeune fille était invisible et sans pareil. On connaissait son nom, mais on ne l'avait jamais vue. On sut dès lors, et le bruit se répandit de tous côtés, que son talisman avait été rompu. Sa réputation s'était étendue jusqu'en Chine. Des trouvères l'avaient célébré à la cour du roi. Le roi de Chine ordonna qu'on lui amenât, invisible et sans pareil. Une vieille femme se présenta devant le roi et lui promit de lui amener la belle. Elle marcha longtemps, longtemps, et finit par arriver. Mais elle eut beau recourir à toutes sortes de ruses, elle ne parvint pas à ses fins. Invisible et sans pareil, s'était laissée persuader et l'avait reçue chez elle. Mais son mari avait deviné ce que voulait la vieille. Il la tua et, la prenant par les pieds, la jeta au chien. Quand le roi vit que la vieille ne revenait pas, il en tomba malade. Son corps se couvrit de pustules. Il souffrait doublement dans son cœur et dans son corps. Mais le remède restait unique. Les grands du royaume envoyèrent des messagers à travers le monde entier. Ils finirent par découvrir une vieille sorcière réputée très habile et la conduisirent au roi. Le roi lui demanda si elle pourrait lui amener, invisible et sans pareil. « Que le roi vive !» dit la vieille. « J'en réponds malgré mon bras paralysé. » Note. Ou gaucher. Fin de note. Le roi lui dit « Va que je te vois. » Note. L'équivalent de « Je compte sur toi. » Fin de note. « Et si tu me l'amènes, je te ferai asseoir dans l'or. » Notre vieille sorcière fait faire un grand sac. Elle le remplit de démons et lie solidement le sac. Elle prend un serpent noir en guise de fouet, monte à cheval sur le sac et la voilà cheminant à travers les airs jusqu'à ce qu'elle arrive dans le jardin de Invisible et sans pareil. Elle cache le sac derrière les buissons et va heurter à la porte du palais. On lui ouvre. Elle entre. Elle aperçoit Invisible et sans pareil. Elle s'informe de sa santé. « Et l'effendi, comment se porte-t-il » ajoute-t-elle. « Va-t-il bien ? Mais comment peux-tu rester ainsi solitaire ? Tu devrais avoir une compagne. Je suis très occupée, je vois beaucoup de monde. Cependant, si cela te plaît, je consentirai à rester avec toi. Je suis dégoûtée du monde. Et toi, de ton côté, tu dois en avoir assez de ta solitude. À nous deux, nous passerons le temps agréablement. » Elle s'exprimait d'un ton si doux, si affectueux, que, invisible et sans pareil, se laissa persuader de la garder chez elle. Cependant, elle lui dit « Je ne le peux pas. Mon mari te tuera comme il a tué une autre vieille qui est venue avant toi. » « Qu'à cela ne tienne !» répliqua la vieille. « Quand Effendi rentrera à la maison, tu me cacheras quelque part, et quand il sera parti, je sortirai de ma cachette. » Elles arrangèrent les choses ainsi. Mais un jour, voilà le mari qui arrive à l'improviste. Il aperçoit la vieille dans sa maison. Il s'élance sur elle pour la tuer, mais, invisible et sans pareil, court se jeter à ses pieds et, en le suppliant, « Ne fais pas de mal à cette pauvre femme, lui dit-elle. Je lui ai donné un morceau de pain. Si tu n'y consens pas, je la renverrai demain. » Le prince était fatigué et avait faim. Il voulut prendre son repas. La vieille qui avait de l'opium dans sa poche en versa dans son vin. Après avoir mangé, il but le vin et ne tarda pas à tomber dans l'engourdissement. La sorcière dit à la jeune femme, « Allons nous promener au jardin et laissons dormir les fendis. » Elles descendent au jardin. Tout à coup, la vieille dit, « Ah, mère, j'ai oublié mon ailax. Je vais le chercher. » Note, ailax, coiffure, fin de note. Elle monte, elle déchire le bras droit du prince, lui enlève son nousksa et le jette. Note, nousksa, talisman, fin de note. Puis elle revient vers la princesse. Hanem, lui dit-elle, allons de ce côté. Et elle l'emmène à l'endroit où était le sac. Les démons qui y étaient enfermés entendent les pas de la vieille. Ils commencent à crier. Étonnés, invisibles et sans pareil, demandent « Vieille mère, qu'est-ce que c'est que ces voix qu'on entend ?» La vieille feint aussi l'étonnement et s'approchant du sac, elle le délie en disant « Regarde, regarde, c'est de là que vient ce bruit !» Et tandis que la princesse se baisse pour regarder, la vieille passe derrière elle, la pousse dans le sac, qu'elle referme aussitôt, monte dessus et la voilà partie dans les airs, à cheval sur son sac, avec le serpent noir en guise de fouet. « Où es-tu, Chine ? Me voici, j'arrive !» Le roi de Chine ordonne de préparer les noces. Cependant, la jeune femme lui envoie une lettre par laquelle elle le prie de l'autoriser à porter le deuil de son mari pendant 90 jours. Après quoi, elle se mariera. Le roi lui accorde sa demande. Pendant ce temps, qu'était devenu le jeune prince? Il avait eu des rêves effrayants, extraordinaires. Son sommeil avait duré longtemps. À son réveil, que voit-il? Le vieux papa qui l'avait accompagné à son départ, assis à côté de lui et lui frottant le bras. Il avait prié pour lui et l'avait guéri. Le vieux papa lui raconte comment ce malheur lui est arrivé, parce qu'il a perdu son nousksa. Comment la vieille a trompé invisible et sans pareil et l'a emmené chez le roi de Chine qui veut l'épouser. Mais il lui apprend que le mariage est ajourné à plus tard. Alors, il tire de sa poche une fiole d'huile. Il la bénit et la remet au jeune prince en lui disant « Tu iras chez le roi de Chine. Tu le frotteras de cette huile et tu le guériras. Tu auras ainsi l'entrée libre au palais et tu verras invisible et sans pareil. Le reste, je le laisse à ton intelligence. « Papa, dit le jeune prince, je ne connais pas les chemins. Comment irai-je en Chine? Quand arriverai-je? » « Voilà deux plumes, répond le vieillard. Lis-les à tes bras et monte sur ton cheval. Tu voleras avec les nuages et tu arriveras en Chine. Je suis Soup Sargis. » Le jeune homme fait ce que le vieillard lui a dit. Il attache les plumes à ses épaules et le voilà arrivé au pays du roi de Chine où, par la faveur de Soup Sargis, il trouve une vieille femme qui le conduit chez elle. Il enlève ses plumes, il attache son cheval et va faire une promenade dans la ville. Il voit que tous les chevaux qui là-bas d'ordinaire sont blancs ont été teints en noir, de même que les bœufs et les moutons. On lui répond que, invisible et sans pareil, porte le deuil de son mari. Il comprend l'intention de sa femme. Il se rend au palais du roi et se fait annoncer. « Je suis médecin, » dit-il. On va avertir le roi qui le fait entrer. Le médecin frotte d'huile le roi et le guérit. Le roi le comble de faveur. Il ordonne de lui donner un logement au palais et de lui laisser ses entrées et ses sorties libres. Il y ajoute le don d'une grande propriété. Cependant, invisible et sans pareil, maigrit de jour en jour. Elle tombe sérieusement malade et ne veut voir personne. À la fin, le roi ordonne au médecin d'aller la soigner. Le médecin déclare que la maladie est grave. Et en effet, s'il n'était pas arrivé, elle serait morte, car il était la seule cause de sa maladie et il n'y avait que lui qui put la guérir. Le médecin ordonne de conduire la malade près d'une source pour que les remèdes soient efficaces, avec défense à personne d'approcher d'elle. Mais la malade était déjà guérie. Pendant qu'ils sont seuls près de la source, ils combinent le moyen de fuir. Rien n'est difficile à un médecin. Il fait un rapport où il prescrit à la malade de se promener à cheval 1 heure par jour. Il amène son propre cheval et un jour la promenade les mène plus loin que d'habitude. Il attache ses plumes à ses épaules, s'élance sur le cheval et les voilà partis avec les nuages. On envoie des soldats à la poursuite. Mais comment des soldats auraient-ils pu les atteindre? Nos deux héros rentrent dans leur palais. Le prince reprend possession de son trône et réunissant une grande armée, il va faire la guerre au roi de Chine à qui il prend beaucoup de terres. Il fait bâtir alors 3 églises dédiées à Soupe-Sargis et il n'y manque ni holocauste, ni lumière, ni encens, ni cierge. Ceux-là sont arrivés à l'accomplissement de leur désir. Que Soupe-Sargis vous fasse parvenir, vous aussi, à l'accomplissement de vos désirs. Fin du conte Invisible et sans pareil, traduit par Frédéric Maclaire.